jeudi 13 novembre 03, chapiteau Florence, La Villette, Paris, 16h.
You can have either a censorship or a just total free market in the media. And also, public media in Poland aren't a very good alternative for the corporate media because they are controlled politically by the few parties, and they also present no liberal point of view. You cannot find information that are against the no liberal currents. In fact, events such as, for example, European Social Forum are not noticed even in this public media in Poland. And if we are talking about what alternative to media concentration, I think that the main power of the independent media is that they give people an opportunity to express their own feelings, to share their ideas, to have a debate. In corporate media, they do not have such an opportunity.
Je passe en Italie, en français et en anglais. Je ferai une chose bizarre. J'en parlerai en italien. C'est une langue minoritaire, mais je l'aime. Vedete, l'Italia è un paese dove esistono due tipi di esseri umani. Ci sono gli esseri umani normali, quelli dotati di raziocinio, testa, gambe, eccetera, e poi ci sono i Berlusconi. Tra le molte qualità o caratteristiche dei Berlusconi ne segnalo due, una che non ha direttamente a che fare con il nostro dibattito, ma che è un impegno, noi abbiamo fatto ieri, c'è stata un'assemblea di molti delegati italiani qui a Parigi, abbiamo deciso che in ogni dibattito in cui avremmo parlato avremmo citato il fatto che ieri 18 nostri connazionali sono stati, per così dire, mandati a morire in Iraq da Berlusconi.
Mon prénom c'est Karim. Bah, en fait, agir contre la guerre, c'est une coordination de comités anti-guerre essentiellement sur la région parisienne. C'est-à-dire qu'on a des comités sur des facs, sur quelques lycées et sur des quartiers d'arrondissement, sur une ou deux entreprises. Et donc le but de ces comités, c'est de regrouper en fait toutes les personnes qui sont prêtes à se bouger contre la guerre, que ce soit des militants politiques, syndicalistes, associatifs, mais aussi des gens qui sont dans aucune organisation, mais qui en tout cas sont prêts à se bouger contre la guerre. Dire que, par exemple, nous, on a des mots d'ordre centraux qu'on a défendus pendant le mouvement anti-guerre, c'était de dire, voilà, quelle que soit notre position sur l'ONU, quelle que soit qu'on soit d'accord, qu'on pense que l'ONU peut faire quelque chose ou qu'on pense qu'elle ne fait rien du tout ou qu'en tout cas, elle participe à des choses qui sont mauvaises, et ben en tout cas, on est d'accord pour dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de guerre en Irak, qu'on ne veut pas qu'il y ait de participation française à cette guerre, qu'elle soit active en envoyant des troupes ou de soutien logistique, quel que soit le soutien, on ne veut pas du tout de soutien français, et dire aussi qu'on exprime notre solidarité avec le peuple palestinien parce qu'on pense que justement la situation au Moyen-Orient et ce qui se passe en Irak, c'est aussi lié à ce qui se passe en Palestine, parce que l'État d'Israël quand même défend les intérêts des Américains sur place.
Voilà. Et ça se manifeste, enfin, comment vous essayez de faire bouger les choses? Est-ce que c'est des actions, des rencontres, des débats, enfin, est-ce que tu peux en parler?
On propose à tous les gens de se réunir avec nous pour discuter de ce qu'on pense de la guerre, par exemple, qu'est-ce qu'on pense des différents gouvernements, leur stratégie par rapport à l'Irak. Par exemple, nous, on pense que la France, si elle a essayé de faire un veto et si elle a exprimé son opposition à la politique américaine, c'est uniquement parce qu'elle avait des contrats qui étaient en jeu en Irak avec Total Finaelf, qui avait des contrats avec Saddam sur des gros gisements pétroliers, qu'elle avait des accords avec eux, et parce qu'elle ne voulait pas ces accords remis en cause par une occupation américaine, qu'elle a mis un veto. D'ailleurs, le fait que, par exemple, Chirac, pendant la guerre, il ne s'est pas opposé au survol de l'espace aérien par les B-52, qu'il ait laissé des ports comme Marseille être utilisés par des navires américains, et qu'aujourd'hui, il nous dit qu'il veut former les militaires irakiens, ça veut dire que, fondamentalement, le peuple irakien, il n'en a rien à faire, mais par contre, c'est plus les intérêts de la France qu'il essaye de défendre.
Et donc, justement, ma question, c'était comment vous activez, en fait, pour expliquer ça, pour le mettre sur la place publique, on va dire.
Nous, en fait, ce qu'on pense, c'est que vraiment, le seul moyen de stopper une guerre, c'est de se mobiliser le plus largement possible. Donc on essaye de se réunir, de passer plein de tracts au maximum de personnes qu'on rencontre. Sur notre fac, on essaye de faire des réunions d'information, de passer des tracts, de coller des affiches, mais surtout de manifester notre colère. Et c'est par exemple, on a participé à la manifestation internationale du 15 février, où tu avais 15 millions de personnes. On a participé à la manifestation le jour des bombardements. Avant qu'il y ait bombardements, on savait qu'il allait sûrement avoir la guerre. On avait collé des affiches partout pour dire le jour où ils attaquent, on se retrouve tous devant l'ambassade. Et c'est pour ça qu'il y a eu du monde, parce que tout le monde s'est passé le mot. Et notre but, c'était de dire, voilà, vu que les gouvernements, ils essayent de jouer leurs intérêts, on peut compter que sur nous-mêmes. Donc si on doit compter que sur nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il faut tous qu'on s'organise en tout, qu'on s'organise en des comités. Et c'est comme ça que ça s'est passé pendant la guerre du Vietnam. Tu avais plein de comités de base avec plein de gens dedans qui sont organisés et qui ont manifesté. Et puis par exemple, il faut manifester, mais il faut aussi essayer de bloquer, de mettre la pression. C'est-à-dire que si tu ne bloques pas le fonctionnement de l'économie, tu ne vas pas embêter par exemple des gouvernements. Et donc par exemple, nous on se disait, voilà, plus le mouvement sera fort et plus on pourra se poser la question de la grève contre la guerre. Par exemple, en Italie, tu as eu des actions de blocage, par exemple des cheminots qui refusaient de faire circuler des trains où il y avait des armes dedans. Tu as des Grecs, au moment du mouvement contre la guerre, ils ont empêché à ce que des navires américains appareillent au port de Pirée à Athènes. Et donc c'est vers des actions comme ça qu'on pense que la guerre peut être stoppée, quoi.
Et sur la participation au forum social, parce que là, je rappelle juste qu'on est devant votre stand, dans la Villette, en fait, vraiment inclus dans le forum social. Est-ce que tu trouves que c'est important d'y être et pour dire quoi ?
En fait, la revendication du forum social européen, c'est pour une Europe des droits et contre la guerre. Donc c'est pour ça que les mouvements anti-guerre, il n'y a pas que nous. Nous, on représente des comités en France, mais il y a aussi plein de militants anti-guerre qui viennent de plein de pays qui sont présents. Et c'est de dire, voilà, l'Europe qui nous prépare, c'est une Europe d'attaque contre tous les salariés, mais c'est aussi une Europe qui participe à la guerre, que ce soit en Irak, mais la France qui fait des interventions, par exemple en Afrique, quand ses intérêts de ces multinationales comme en Côte d'Ivoire sont en jeu, elle n'hésite pas à intervenir. Donc nous, si on est là, c'est pour dire à tout le monde de se dire, voilà, il faut tous qu'on se batte ensemble contre la guerre, parce que, par exemple, pourquoi on dit que voilà, il y a un lien entre le social et la guerre, c'est que, par exemple, quand les gouvernements font la guerre, ils font payer la facture au peuple, parce que les budgets militaires, ils augmentent, que les contrôles, ils s'accroissent, et que c'est toujours les mêmes qui payent la guerre. Par exemple, en Palestine, t'as les gouvernements israéliens successifs qui mènent une guerre de plus en plus accrue contre les Palestiniens, et c'est aussi les travailleurs israéliens qui payent la facture, parce qu'en ce moment, t'as des travailleurs israéliens qui sont en grève, parce que t'as tout l'argent qui est filé dans les colonies aux soldats, et ils sont en train de réduire les salariés, les nombres de fonctionnaires, ils veulent casser les retraites, faire travailler les Israéliens plus longtemps, et donc c'est lié, tu vois.
Guerre, racisme, misère, pacifique, ça, contre l'impérialisme.
Le nucléaire, il n'y a pas de problème.
Les chaînes nucléaires, ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas dangereux. C'est pour le futur des enfants.
Ouais. Pour le futur des enfants, on a besoin du nucléaire parce que le nucléaire est sûr, est propre, économique et écologique. Et nous mentons jamais au lobby nucléaire. Je suis Monsieur Nocio, Pi, prénom Pi, Pinocchio. Et je dis, le nucléaire est sûr, est propre, économique et écologique. Plus de l'énergie nucléaire, s'il vous plaît. Et vous avez le droit au nucléaire, hein? à votre ville, à votre maison. Une centrale nucléaire. Voilà.
Jeudi 13 novembre 03, sous le périph, porte de Pantin, Paris, 19h.
Moi c'est Sylvain, ici on est dans le GLAD, c'est-à-dire l'espace de globalisation des luttes et des actions de désobéissance. Donc on est pas loin de la Villette, où qui est un des sites officiels du FSE. Et en fait, nous, l'idée, c'est d'être à la fois dans le FSE et puis un peu en marge du FSE. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a des débats qui sont fort intéressants au FSE. D'ailleurs, nous, on participe à certaines plénières ou certains séminaires. Mais on pense que c'est aussi important de passer de la théorie à la pratique et donc de faire des actions. Donc on en est aussi un lieu de convergence d'actions. Et puis pour que ce soit tout ça dans un cadre convivial et festif, il y a des concerts, il y a des cantines militantes qui proposent des repas à prix coûtant. Et puis il y a aussi des ateliers pratiques, d'échange d'expériences. Voilà. Et donc il y a des jeunes un peu de tous les pays européens, il y a même des Indiens et des Brésiliens qui sont là. Et on essaye de faire fonctionner ce lieu ensemble, quoi, avec des principes d'autogestion.
Voilà, est-ce que tu peux nous parler justement de ces principes d'autogestion ?
Ben en fait, ça repose sur une idée simple, c'est qu'il faut qu'on arrive à faire vivre des lieux qui fonctionnent autrement. Donc on dit un autre monde est possible, ben, faut essayer de voir en pratique qu'est-ce que ça peut donner. Bon, sans se faire d'illusions, parce qu'on n'est pas en train de faire le paradis dans notre petit stade La Doumègue à Porte de Pantin. Mais on essaye de fonctionner quand même un peu autrement, avec un partage des tâches, avec des principes de gratuité, avec donc des personnes qui tournent en ce qui concerne les tâches. Et puis aussi des échanges d'expériences, donc ça c'est pas mal important, quoi.
Et est-ce que, en fait, c'est deux collectifs qui sont à l'origine de ce qui se passe ici. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ?
Ouais, donc en fait, c'est deux réseaux, donc le réseau intergalactique et le réseau des Novox. Le réseau des Novox, donc moi j'en fais pas partie, je fais partie du réseau intergalactique. Donc je vais aller assez vite sur le réseau des Novox. En gros, c'est tous les 100, sans papier, sans droit, sans logement, sans travail, sans maison, tout ça, qui font partie de ce mouvement, quoi. Ceux qu'on n'entend pas d'habitude. Et puis le réseau intergalactique, c'est un réseau de jeunes altermondialistes, un réseau qui est né pendant la préparation du G8 d'Evian à Florence, en fait, au premier forum social européen. On s'est réunis, il y avait un certain nombre de collectifs de jeunes altermondialistes qui existaient partout en France, et on a décidé de faire quelque chose ensemble pour préparer le G8 d'Evian. Donc c'est ce qui s'est fait. On a fait le village intergalactique. C'était un campement au milieu des champs à Annemasse, qui reposait sur les principes d'autogestion et des principes de débat et de préparation d'action. Donc là, bien sûr, ça a été un gros succès avec 5000 personnes. Et du coup, on a décidé de pérenniser le réseau, qui est devenu le réseau intergalactique, alors qu'avant, c'était le réseau G8 illégal. Et en fait, on a décidé de continuer donc au Larzac et puis ici, au Forum social européen, en essayant de s'élargir au niveau international et de s'élargir au niveau social avec un truc qui a été fait avec les Novox. Bon, bien sûr, il ne s'agit pas de reproduire à l'extérieur du périphérique parisien ce qu'on avait fait dans les champs à Annemasse, ça serait un peu compliqué. Mais en tout cas, il y a toujours l'idée d'allier convivialité, fête et préparation d'action. Voilà. Et échange d'expérience aussi, et expérimentation.
Et quand tu parles d'action, ça se concrétise comment ?
Bah, par exemple, ce matin, on a fait une action en solidarité avec les McDo qui sont en lutte dans un McDo à Paris. C'est le McDo Strasbourg-Saint-Denis, en fait. Donc, ils sont en lutte depuis 8 mois. Et ils sont venus ici présenter leurs actions, leurs luttes, tout ça. Et après, on est parti avec eux, on était à peu près 400 et on a bloqué un McDo sur les Champs-Élysées. Donc c'est pas été du coup de la police qui nous a empêché d'entrer dans le McDo. Donc il y avait les flics avec des casques, des boucliers, et l'air pas très très sympathique, qui nous a empêché de rentrer dans le McDo. Donc, et qui nous ont encerclés, en fait. Donc ça a duré 1 heure, 2 heures, et puis finalement ils nous ont laissé partir groupés dans le métro. Et on avait une batucada, c'est-à-dire un orchestre brésilien qui faisait un peu de musique, la samba, animation, tout ça. Donc voilà, c'était une action de désobéissance civile symbolique, mais déterminée quand même, quoi, puisqu'on n'a pas lâché l'affaire, même quand les flics étaient là. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que c'était international. Donc voilà. Et puis on soutient une lutte locale, donc avec l'idée d'allier lutte globale et lutte locale.
Histoire Bonde, jeudi, 18h-19h. JTFM.
Vendredi 14 novembre 03, AG45, rue d'Aubervilliers, Paris, 11h.
En plus de mes activités associatives, pour ceux qui ne le savent pas, puis pour ceux qui le savent, je le rappelle quand même, parce qu'on doit certainement se questionner là-dessus, j'ai milité dans des mouvements de courant politique, le MDV, et ensuite Vitrolles Alternative 100% à gauche. Alors bien sûr, beaucoup de gens se sont demandé pourquoi j'étais cette fois-ci sur la liste de Biobini. Tout simplement parce que par ma présence, j'affirme qu'il est urgent de saisir à bras le corps toutes les énergies dont nous disposons pour chasser définitivement et sans espoir de retour tous ceux qui, à petit feu, ont tué la ville qu'on a connue.
Je me refuse, si tu veux, à un moment donné, même si c'est la campagne de Obino, je me refuse à dire que la mienne, c'est la meilleure. Même si je pense que la liste où je suis a le plus de chances de gagner, parce qu'elle est plus représentative. En même temps, ça me rend très triste l'énergie que dépensent mes copains de l'autre côté.
Moi, je suis Olivier Azam, je suis parti de Zalea TV. Et là, tu es au cœur de Stalingrad, en France, quoi, qui est un des quartiers réputés les plus difficiles, mais qui en fait est un quartier vachement sympa à Paris.
D'accord. Et donc on est dans un bâtiment en fait qui regroupe plein d'autres collectifs. Hein. Est-ce que tu peux nous dire exactement voilà. Qui est là?
Alors là, Zalea TV, c'est une télé donc qui diffuse de nouveau en pirate depuis hier. À côté de nous, dans le bâtiment en face, il y a Indie Media Paris. Il y a une structure qui s'appelle Réseau 2000, il y a une structure qui fait de l'Internet, il y a Cohérence qui fait de la distribution presse alternative et cassette hein, et DVD, il y a une radio qui s'appelle Fréquence Paris Pluriel, et puis je crois que il y a Périphérique Vous Parle enfin, qui fait un magazine, tout ça. Enfin, il y a pas mal de structures et ça bouge pas mal par ici.
Ouais. Ouais, et Zalea TV commence à avoir une certaine réputation, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste, toi, quand, en tout cas ce que tu vois dans ce média et ce que tu fais et ce que tu as envie de faire et... ouais.
Alors Zalea, c'est une structure qui a maintenant 4 ans et qui est née d'un regroupement d'individus qui avaient eux-mêmes une expérience déjà dans les médias alternatifs depuis pas mal d'années, dont certains, les plus anciens, venaient déjà de la radio libre, Carbone 14, enfin toute la période début des années 80 et des premières expériences de télé libre. Et donc ça s'est fondé autour une bagarre qu'on a menée pendant quelques années avec la coordination permanente des médias libres, qui a permis de changer la loi sur l'audiovisuel et d'intégrer la légalisation des télés associatives en France. Cette légalisation, elle a mis quand même des années, puisque c'est seulement en 2000 que les télés associatives ont pu être légalisées.
Alors, ça, pourquoi ?
Je ne sais pas, peut-être parce que peut-être que c'était gênant, ou peut-être que c'est lié aussi à l'évolution des technologies, si tu veux. Il n'y a pas eu le fait que ça s'est démocratisé au niveau des caméras, du banc de montage, tout ça, a fait qu'il y a eu suffisamment de structures qui ont poussé pour qu'il y ait des choses qui se fassent. Par contre, ce qu'on n'a pas obtenu en 2000, c'est les conditions économiques de viabilité de ces chaînes-là. Ce qui fait que, contrairement aux radios qui ont un fonds de soutien, on n'a pas réussi à obtenir un fonds de soutien automatique pour les télés. Ce qui fait que les télés sont dans une précarité absolue depuis qu'elles existent et sont en permanence être obligées de faire appel aux dons, enfin de se débrouiller quoi, comme ça pour tenir par à-coup et de faire des diffusions par opération.
Et Zalea fait comment justement pour émettre? Il faut du matériel, un mode de fonctionnement, donc comment ça se passe?
Nous on a réussi à s'organiser. Bon, d'abord il y a beaucoup dans l'équipe, il y a beaucoup de gens qui viennent de la profession de l'audiovisuel, on travaille plus ou moins tous dans l'audiovisuel. On est tous plus ou moins intermittents. Donc, au bout du compte, on a réussi à récupérer du matos qu'on nous a prêté, donné des fois, des trucs qui étaient dans les poubelles. Enfin, il y a beaucoup de briques et de brocs pour mettre en place les régies de diffusion, ce qu'il fallait. Après, au niveau de la diffusion, c'est quand même beaucoup plus compliqué parce qu'on a affaire à des coûts qui sont énormes. C'est-à-dire qu'on est obligé de passer par le satellite si on a les moyens. C'est très très cher, c'est plus d'un million d'euros par an, on ne peut pas se le payer. Donc c'est par à-coup qu'on arrive à le faire. Et puis il y a le problème de l'hertzien, enfin de la diffusion normale, quoi, analogique, par les antennes de tout le monde. Et là, on a affaire à des coûts importants aussi, bien sûr, mais on a surtout affaire à des autorisations du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et là, c'est là qu'on rentre dans un problème politique, puisque le Conseil supérieur de l'audiovisuel nous mène ils résistent à l'arrivée des télés libres et à une politique complètement discriminatoire qui fait qu'aujourd'hui, Zaléa TV, qui a pourtant diffusé, a fait ses preuves pendant des années, a diffusé encore cette année depuis la Tour Eiffel, tu vois, sur toute l'Île-de-France, ben aujourd'hui, elle est interdite par le CSA. Pendant maintenant, on ne sait pas combien de mois, mais en tout cas, de fait, on est interdit, puisqu'on n'est pas autorisé pour diffuser pendant le FSE, et on ne le sera pas pendant la campagne électorale.
D'accord. Mais par contre, vous diffusez quand même, mais sur quel principe ?
Alors, du coup, on est parti de la clandestinité, hein, de diffusion pirate dans les années 90, fin 90, et on est parti de là, on savait le faire. Et puis petit à petit, si tu veux, on a avancé et on est sorti de la clandestinité, puisqu'on a pu diffuser de façon légale, autorisée, par période. Et donc, on avait même rendu notre émetteur pirate au CSA un signe de bonne volonté, puisque les dernières diffusions pirates qu'on avait fait, c'était l'année dernière, en 2002, où on avait repris encore les émetteurs parce qu'on était interdit pendant la campagne présidentielle. Donc là, le CSA avait demandé la saisie de notre matériel, avait porté plainte, et puis finalement, les choses se sont réglées. Ils ont fini par nous rouvrir un canal qui nous a permis de diffuser depuis la Tour Eiffel. Et à ce moment-là, si tu veux, on avait rendu notre émetteur. Mais là, face de nouveau à une discrimination totale du CSA, on s'est fait prêter un autre émetteur et on demande au CSA d'ailleurs de nous rendre l'émetteur qu'on leur a prêté, qu'on leur a rendu.
D'accord, mais quel intérêt ils ont, eux ? C'est un intérêt pour ne pas cacher la ligne du gouvernement, enfin, ou c'est...
Écoute, il y a un truc qu'il faut comprendre. Il y a un truc simple, il n'y en a même plus besoin de faire de commentaires. Tu sais, quand le président du CSA, c'est Dominique Baudis, bon, on le connaît, les sages du CSA... qui ont été renouvelés tous petit à petit, sont nommés à la fois par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Alors c'est censé être un organisme indépendant, mais il faut qu'il prouve qu'il soit indépendant. Et c'est vrai que le fait qu'il soit nommé par des gens qui sont éminemment politiques, ça donne une suspicion, tu vois, on se dit bon... Mais a priori, il pourrait très bien faire preuve d'indépendance en disant bon... En faisant son boulot finalement. Et là, il ne fait pas son boulot. C'est-à-dire qu'il autorise, il a autorisé sur le canal 35 sur lequel on était à Paris, 6 chaînes qui sont des chaînes qui émanent de conseils municipaux, de conseils régionaux. Bon, alors évidemment, il y a un pluralisme, mais sauf que c'est que des hommes politiques, si tu veux. C'est un truc qui est géré par des commerciaux et des politiques. Alors où est la télé libre là-dedans, tu vois ? Il y a une vraie discrimination et c'est ça qu'on dénonce.
Et là, en ce moment, c'est le Forum social européen qui se tient. Et vous, comment vous... Est-ce que vous incluez, est-ce que vous incluez pas ? Il me semble qu'il y a un bisbille par rapport à l'orga du FSE. Est-ce qu'il y a un traitement différent ? Enfin, est-ce que tu peux nous en parler de ce qui se passe en ce moment ?
Moi, je pense qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi. Si tu veux, on n'a pas... a priori, ce qui va se débattre et ce qui se débat au Forum social européen, c'est des choses qui nous intéressent à tous et dans lequel on est un peu tous impliqués, quoi. C'est une autre vision du monde. Maintenant, il ne faut pas cacher non plus les contradictions qui émanent de gens qui organisent des gros rassemblements comme ça. Et ce n'est pas pareil quand c'est en Italie, quand c'est en France. Ça change suivant les endroits où c'est. Tout le monde est choqué ici, dans les médias alternatifs, par le mode d'organisation qui a été choisi par le Forum social européen à Paris. Par une certaine partie minoritaire de gens qui ont organisé ça. On est surpris à plusieurs titres. On est d'abord surpris que dans aucune plénière, on a pu, et pourtant Dieu sait si on a essayé, quand je dis Dieu, excusez-moi, c'est une expression, on sait bien à quel point il n'y a pas eu de concertation et surtout à quel point on n'a pas pu faire en sorte qu'il y ait un porte-parole des télés libres, par exemple, ou en tout cas des médias libres, des télés vraiment libres, quoi, pas des télés institutionnelles, un porte-parole qui puisse s'exprimer sur cette question qui nous semblait assez cruciale dans l'univers actuel de la communication, quoi, des médias. On trouve hallucinant que, certes, il y a des gens qui font de la critique média qui peuvent s'exprimer, ce qui est bien, mais on trouve hallucinant que les médias critiques ne puissent pas s'exprimer. Et ça, on a pas mal bagarré avec l'organisation pour que ça se fasse, et par des manœuvres complètement hallucinantes. Au bout du compte, il y a une plénière qui a lieu cet après-midi et il n'y aura pas de médias alternatifs à la tribune. Alors ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on s'est bagarré avec une certaine partie de l'organisation pendant des mois pour mettre en place un media center alternatif au sein du FSE. Il y a des gens de l'organisation qui ont fait que ce soit possible, qui ont essayé que ce soit possible. Ils ont été face à une... ils ont eu en face d'eux, si tu veux, une réticence énorme de la plupart des gens qui étaient dans l'organisation, qui trouvaient pour certains que la télé, c'était dangereux de faire de la télé libre dans le FSE. pour d'autres que peut-être ça n'avait pas d'intérêt. Ben, on a jamais eu, si tu veux, on n'a jamais eu de rupture frontale, quoi. On a juste eu des échos. Alors on peut dire que c'est de la rumeur, tout ça. C'est pour ça que c'est difficile d'en parler. Tout ce qu'on sait dans les faits, c'est que si tu veux, les choses ne se sont pas faites et le Media Center s'est débloqué, a pu se débloquer que dans les derniers jours qui précédaient le FSE. Donc nous, on était quand même engagés et on était prêts à compenser les manques de l'organisation en amenant notre matériel, en faisant tous les efforts possibles pour que ça se fasse, parce qu'on était quand même de bonne volonté. Ceci dit, les derniers jours, ils ont quand même voté un budget qui aurait permis effectivement que ça se fasse, mais dans des délais très courts, c'est-à-dire on avait quelques jours pour mettre en place les choses. Alors ça, c'était une première chose. On l'aurait fait quand même. Mais ce qui a fait la goutte qui a fait déborder le vase en ce qui nous concerne, c'est qu'à quelques jours donc, du FSE, à trois jours, l'organisation a dit on va décider le jour du FSE si oui ou non Indie Media pourra rentrer dans le si on accréditera le Indie Media Paris pour rentrer dans le FSE. Et là, on s'est dit, attendez, vous demandez qu'on accrédite. Déjà, le problème d'accréditation, c'est un truc qu'on a du mal à gérer, nous, les médias libres, hein, parce que les accréditations, quand on n'a pas de carte de presse, c'est un peu difficile à accepter. Mais si, en plus, vous nous demandez de fliquer et d'empêcher de rentrer des gens qui sont des médias libres, des vrais médias libres, c'est hors de question. On n'attend pas que vous preniez votre décision, parce qu'on ne va pas encore attendre, parce qu'on attend des décisions depuis 6 mois. Donc on se retire du Media Center. C'est ce qu'on a fait. Et bon, tant pis, on est en rupture, si tu veux, mais à un moment donné, il faut rester cohérent avec ce qu'on fait.
Et ça ne vous empêche pas de faire des choses, notamment à la Maison des Métallos?
Ben, en fait, la réalité de ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'après ça, on était déjà sur le projet du Media Lab, mais c'était un autre projet, ce n'était pas un Media Center. Donc on a continué à faire ce qu'on devait faire au Media Lab, et on voit bien que peu à peu, très rapidement, en une journée, s'est organisé un Media Center entre Media Lab et Zaléa ici, et Indie Media, et que du coup, le Media Center, il n'est pas center, il est un peu éclaté, mais en tout cas, on voit bien que le rendez-vous des médias alternatifs, c'est au Media Lab, c'est pas au FSE officiel. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans le Media Center alternatif du FSE. Il faut voir quels institutionnels sont en train de gérer ce truc-là, quoi.
C'est-à-dire qui?
Je sais pas, on va voir.
et sinon, sur... Tu disais que que fallait pas se tromper d'ennemi, toi, sur ce qui se passe en ce moment, sur tous ces forums qui, européens un peu partout, sur ce qui s'est passé à Evian et tout ça. Toi, ta vision, c'est quoi? Et par rapport à l'intérêt justement d'avoir une télévision libre?
Ben, moi, je crois que ce qu'ils n'ont pas compris, mais ce qu'ils comprendront plus tard, c'est pas grave. C'est dommage que ça prenne autant de temps. C'est que c'est pas la peine de s'acharner des années à draguer les médias traditionnels. Mais je sais qu'il y a une grosse réflexion au sein du FSE à ce niveau-là. Hein. C'est pas la peine de bouffer toute son énergie et son argent à draguer ces médias, qui de toute façon sont contrôlés par des grands groupes commerciaux. Et l'État, pour en ce qui concerne souvent le service public, bien qu'il y ait des journalistes indépendants qui font leur boulot dedans. Mais je crois que c'est pas la peine de tu vois, il faut à un moment donné qu'il y ait un traitement équitable, quoi, qu'on fasse pas semblant, si tu veux, d'aider les médias alternatifs, tout en finalement les foutant dans un coin, ne croyant pas une seconde qu'ils font du boulot. Il faut voir maintenant que les médias alternatifs, qu'ils soient télé, internet, radio, peu importe, presse écrite, sont très présents dans la société française, européenne, partout, quoi. Ils sont très présents, les gens. Alors, ils sont divers, aucun n'a une grosse audience, mais en tout cas, tous rassemblés, finalement, c'est une vraie information alternative. Donc, on sait que le traitement qui est fait par ces médias alternatifs de ces questions qui sont traitées au Forum social européen sont beaucoup plus proches de la réalité que celles qui sont faites par les médias traditionnels. Donc il faut accepter ça. Il faut accepter aussi que ces médias-là soient parfois critiques avec l'organisation du FSE ou avec une certaine intelligentsia qui règne autour de ça. Il faut accepter la critique. Si les gens qui prônent un autre monde ne sont pas capables d'accepter la critique, les divergences, parfois les conflits verbaux, tout ça, s'ils ne sont pas capables de faire ça eux, mais qui va le faire? C'est pas un autre monde dont on parle. Si c'est les mêmes fonctionnements que ce qu'on critique dans la société actuelle.
Cette ligne est sur écoute. Il va me falloir être bref.
Histoire d'onde. Jeudi, 18h-19h, Jet FM.
Quand j'entends dire des gens du MEDEF qui disent que être intermittent, c'est un accident du travail, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent absolument pas, en fait, finalement, qu'est-ce que c'est que ce métier, qu'est-ce que c'est que cette situation, parce que si être intermittent, c'est un accident du travail, c'est-à-dire que jamais on pourra s'entendre avec des gens qui ne connaissent absolument pas comment les gens vivent, comment les intermittents vivent. Ça n'a rien à voir avec un accident du travail. Je pense que là, M. Yagon, ces gens du MEDEF viennent de se tromper fortement parce que je pense qu'ils ne doutaient pas de ça, mais qu'il y a une vraie solidarité entre nous. On dit que c'est des métiers où on est tous individualistes et que là, on est en train simplement de montrer qu'on est unis. Unis simplement pour défendre un statut, unis pour défendre la culture, parce que nous, on y croit, qu'on fait ça par passion, qu'on aimerait travailler beaucoup plus et qu'il faut arrêter de nous prendre pour des abrutis. Tous les budgets de la culture sont gelés depuis quelques années. On donne de moins en moins d'argent et là, on est en train de nous dire qu'on va vers des avancées intéressantes. Mais les gens ne savent pas de quoi ils parlent, ce sont des gens qui n'ont aucune légitimité pour parler de ça. Et je crois qu'aujourd'hui, ils sont face à un vrai problème, c'est qu'on est tous solidaires et qu'on va tous dans le même sens. Et ça, ça va leur coûter très cher.
Ouais, c'est un peu une action festive là aujourd'hui. Ouais. Donc qu'on va dévoiler un peu plus tard, mais pour l'instant, chacun va récupérer ses petits fruits.
Festive, mais pas forcément gastronomique.
Non, voilà, tout à fait. Voire un peu amer.
Il y a eu des manifs, on était 20 000 entre la Bastille et l'Olympia en fer en avril, il n'y avait pas une ligne dans les journaux, ça faisait les pages intérieures vaguement une journée, à la télé il n'y a rien eu, il n'y avait pas une seule caméra de télévision, on a fait des manifs pacifistes, etc. Il ne s'est rien passé. À partir du moment où il y a violence en fait, à partir du moment où il y a blocage, là ça bouge. C'est dommage, c'est vraiment con, mais on est obligé d'en venir là.
Je suis très content d'entendre M. Ayagon dire aujourd'hui qu'il va s'occuper des petites compagnies, alors que je l'ai entendu dire il y a quelques mois qu'il fallait mettre un peu un coup de pied à toutes ces compagnies qui faisaient des choses qui n'étaient pas toujours présentables.
Il a employé le terme médiocre.
Voilà,
le spectacle médiocre.
Nous sommes ravis, Monsieur Ayagon, qu'il faille passer par une épreuve de force pour que vous preniez conscience qu'il y ait des petites compagnies, qu'on vit pas sur l'or, qu'on ne demande pas à vivre sur l'or. On demande simplement à faire notre métier le plus honnêtement et avec la même foi et de pouvoir survivre, c'est tout.
Alors moi je m'appelle Diego, donc je suis permanent et employé de Fréquence Paris Pluriel. On est dans les locaux de Fréquence Paris Pluriel et on a créé l'association Radio Cascade il y a 6 mois pour emprunter la fréquence de Paris Pluriel pour couvrir le Forum Social Européen donc a commencé mercredi 11 novembre. Donc voilà.
Concrètement ça se passe comment ?
Alors concrètement ça se passe qu'on a récupéré l'antenne mercredi à 11h et on la rendra dimanche à minuit. D'ici là, on a l'antenne 24 heures sur 24, les 5 jours durant. Et donc, voilà, bah, on a toute une équipe de reporters qui part à droite et à gauche sur le forum, autant dans les lieux où se passent les plénières et les séminaires, autant dans les lieux où se passe un peu la partie off de cet événement, donc chez les anarchistes au FSL, Forum Social Libertaire, au GLAD, au MIB, Porte de Saint-Denis, Porte de Clignancourt. Il y a encore des trucs au Métallo Media Lab. Enfin, dès qu'on a une information quelconque, hier il y avait la manif des intermittents, il y avait quelqu'un qui était. À midi, il y a une manif pour protester contre un débat qui est organisé par les syndicats policiers et de juges et de matons. Donc on a envoyé 2 personnes qui vont là-bas, qui vont nous ramener le son. Donc les gens partent, reviennent, réalisent sur ordinateur et ensuite on diffuse ça.
Ok, et justement par rapport à l'objectif de cette radio, est-ce que le FSE et ce qui s'y passe rentrent dans les mêmes idées, dans les mêmes envies ?
Plus ou moins, parce que bon, quand on a monté ce projet-là, on a dû beaucoup... quand même pas mal le défendre auprès de l'AG et du CA de la radio. Il y avait pas mal de personnes qui étaient réticentes et qui disaient c'est hors de question qu'on se fasse la radio officielle du FSE ou la radio porte-parole du FSE. Donc c'est pas du tout le propos. On est une radio qui couvre le Forum Social Européen. On a juste la particularité de diffuser les débats bruts. C'est-à-dire qu'on monte très peu, un débat il dure 2 heures, on le monte en 2 heures, on le diffuse tel quel. Alors après, c'est une décision prise collectivement que de choisir un débat pour aller le couvrir. Donc tous les soirs on se rencontre, on dit qui va où, pourquoi tu vas là-bas, justifie-toi et argumente. Donc voilà, donc a priori ça pose pas de problème vis-à-vis des autres ni vis-à-vis de nous, on a réussi à trouver un accord, c'est de gérer collectivement l'antenne et de se mettre tous d'accord et d'argumenter en fait. Pour savoir si effectivement quand on va couvrir une personne d'attaque ou une personne des Verts, avec qui a priori on n'est pas d'accord sur tout, puisque nous, les propos réformistes, on va peut-être plus au-delà, on est peut-être plus extrémiste entre guillemets dans nos idées politiques, mais toutes les choses peuvent être intéressantes et de n'importe quelle bouche. Donc il suffit d'aller écouter. Radio Cascade, fréquence sociale européenne, est écoutable sur Paris, la banlieue en Arcien. Et sinon, écoutable via Internet, en streaming et en direct. Et on a mis aussi en place une banque de programmes sur le serveur FTP, qui est accessible via le www.radiocascade, Radio Cascade en un mot, cascade au pluriel, .org, radiocascade.org.
Vendredi 14 novembre 03, marché de la Conf Paysanne, Saint-Denis, 15h. Vendredi 14 novembre 03, Brousse du Travail, Saint-Denis, 16h.
Alors on est à Saint-Denis, au Forum social européen. On vient d'avoir un débat organisé par Femmes Solidaires, notamment sur le thème « Les femmes et la politique, les femmes et la vie associative, est-ce important pour une femme de faire partie d'un parti politique ou d'une association ?» Et on a fait différents visages de femmes. Donc on a eu Madame Gillot, femme de l'ancien maire de Saint-Denis, créatrice de l'accouchement sans douleur à la maternité de Saint-Denis, résistante, qui nous a parlé de sa vie, de tout ce qu'elle avait fait, tout ce que ça y avait apporté. On a eu des femmes émigrées, femmes qui subissent la polygamie et la violence, donc mariées en deuxième position, sans droit, abandonnées par les maris, comment elles se sont retrouvées dans la vie associative et l'aide. Est-ce qu'elles, elles ont apporté en tant que femmes immigrées pour aider les autres femmes dans la même situation?
Et cette association, elle fait quoi exactement?
Femmes solidaires, c'est une association qui a été créée après-guerre par les femmes résistantes en solidarité entre les femmes après-guerre pour s'aider mutuellement. Et cette association s'est développée. Maintenant, elle s'appelle Femmes solidaires parce qu'en France, on est un peu multi de toutes les nationalités. Et donc, Union des femmes françaises, c'était un petit peu problématique pour les femmes arabes, espagnoles, portugaises, africaines. Et donc, c'est une solidarité entre les femmes, donc dans la défense de leurs droits, pour la parité, sur la culture, sur le sport, l'entraide, la santé. Ah, et la question.
Et est-ce que vous trouvez ça important de venir en discuter pendant le Forum social européen?
Ah oui, parce qu'il y a une grande. On fait partie aussi de la Fédération internationale des femmes, et il y a toute une chaîne qui existe sur la planète entre les femmes. Et notamment, par exemple, on a mené un grand combat pour Leyla Zana, la députée turque qui est emprisonnée. Et c'est vrai que par les luttes qu'on a menées en France et sur le plan international, ça a permis qu'elle soit emprisonnée malheureusement pour 15 ans, mais pas condamnée à mort. Comme on s'est battu pour Amina. On s'est battu pour Amina qui devait être lapidée pour avoir eu un enfant hors mariage en Afrique, etc. Non, c'est très important quand même d'en parler au forum parce que les femmes européennes n'ont pas de moment avec les pays de l'Est où on a un apport de femmes dans la prostitution de tous les pays de l'Est où on met en place un réseau pour les retirer et les sauver un peu de la mainmise des proxénètes.
C'est une installation sur t-shirt qui traite de la question de l'égalité homme-femme ou des questions de genre, hein, comme on dit, et qui a pour but de questionner des passants. Alors la forme, c'est donc deux bandes dessinées sur chaque face de t-shirt, une recto universo. La première donc s'appelle être un homme, la seconde être une femme. Alors le principe de ces dispositifs, c'est ce qu'on appelle des attrape-gens. Et ça part du constat de départ que les débats, ça emmerde les non-militants et de plus en plus les militants. Mais du coup, si on ne veut pas rester entre militants, il y a un travail sur la forme de communication de ces idées militantes que nous, on entame notamment avec ce dispositif. Donc les piliers, c'est humour, simplicité, être un peu rentre-dedans, Bref, pas la langue de bois, parce que la langue de bois, c'est pas que les politiques, c'est aussi les débats et les plénières.
J'ai vu des milliers de bisons qui pourrissaient dans la prairie, laissés par là, par l'homme blanc qui les avait tués d'un train qui passait. Je suis un sauvage. Je ne comprends pas comment ce cheval de fer qui fume peut être plus important que les bisons que nous ne tuons que pour subsister. Qu'est-ce que l'homme sans les bêtes? Si toutes les bêtes avaient disparu, l'homme mourrait complètement solitaire, car ce qui arrive aux bêtes bientôt arrive à l'homme.
Moi, je suis Armelle, je suis membre du collectif dionysien pour le Forum Social Européen. Donc, voilà, ça c'est pour moi.
Ça veut dire de Saint-Denis en fait.
Alors, ça veut dire de Saint-Denis. Dionysien veut dire de Saint-Denis. Et collectif veut dire que nous sommes un regroupement d'associations et d'organisations locales, mais aussi de citoyens ou non citoyens d'ailleurs, enfin d'habitants de Saint-Denis. Et qu'on s'est mobilisés ensemble pour essayer de préparer le Forum Social Européen à notre niveau. Et donc là, on se trouve à l'espace des forums sociaux locaux, qui est un espace qui est laissé à la disposition de l'ensemble des forums sociaux locaux de France et d'Europe qui peuvent se retrouver là à l'occasion du Forum Social Européen.
Qu'est-ce qu'un forum social local ?
Alors, un forum social local, c'est une question qui nous a valu un séminaire qu'on a organisé il y a 2 jours, justement parce que c'est pas très facile de savoir ce que c'est un forum social local. Est-ce que c'est, comme nous, un collectif d'associations et de citoyens qui se mobilisent pour essayer de travailler ensemble sur des thématiques variées ? Est-ce que c'est seulement un moment de rencontre ? Est-ce que c'est un processus ? Donc je peux difficilement répondre à cette question comme ça. Peut-être que Sonia a une idée plus précise de ce qu'est un forum social local. Il y a une chose de sûre, c'est que c'est un rassemblement, que c'est quelque chose de collectif. Le reste de la définition est beaucoup plus aléatoire.
Bah, je pense que ça dépend ce qu'on a vu hier. C'est que les FSL, chacun a un peu une définition de ce qu'est pour lui le FSL dans sa ville ou dans son pays. Ce qui est sûr, c'est ce que Armel disait, c'est que c'est un mouvement collectif en fait, hein. Donc c'est un lieu où on débat, où on essaye d'avancer ensemble sur des problématiques locales, mais comme on dit souvent, de penser aussi au niveau global. Donc ça peut être sur la question de l'eau, ça peut être sur la question des femmes, ça peut être sur la question des sans-papiers, et puis toute la panelle en fait des questions sociales qui sont débattues dans le cadre justement des forums sociaux en général. Donc nous, ça fait sur Saint-Denis, ça fait 1 an qu'on existe, et en on s'est réunis de nombreuses fois, et on a fait un forum social local justement sur une journée en invitant les gens de Saint-Denis à venir débattre avec nous, et puis d'apporter eux leur regard sur les choses et leur expérience pendant la journée. Donc on espère, nous, continuer au-delà du Forum Social Européen, de faire vivre justement des lieux de débat sur la ville, avec pas que les militants, mais avec les gens, avec les dionysiens.
Et justement, sur le FSE, c'est l'implication pour quelque chose plutôt sur long terme, dans ce que vous expliquez. Comment vous l'envisagez et quelles sont vos envies par rapport à un Forum Social Européen qui peut... et à des forums sociaux locaux, et comment après ça peut évoluer, quelles sont vos envies par rapport à ça?
Nous on a créé le collectif dionysien justement dans une volonté de pérennisation et de ne pas s'arrêter au FSE actuel en fait, de Saint-Denis, mais de continuer pendant 1 an, 2 ans, on verra la forme que ça prendra. Pour l'instant, on est vraiment dans l'expérimentation et les choses se passent quasiment au jour le jour. Mais nous, la volonté, c'est vraiment de pérenniser en fait des lieux d'échange et donc de démocratie participative. Alors, pour l'instant, ça a la forme que ça a. C'est-à-dire qu'on se réunit toutes les semaines, il y a des groupes de travail. Mais à l'issue du Forum social européen, ça peut prendre aussi une autre forme. On expérimente, mais on veut continuer le débat, pas qu'entre militants, et vraiment avec les gens, les dionysiens, qui sont, eux, dans leur quotidienneté, et qui souvent ont du mal justement à prendre du temps pour débattre et pour réfléchir au-delà de leur quotidien.
Et est-ce que toi, tu as l'impression que justement, pendant le FSE, il y a des gens qui n'ont pas forcément accès à ces informations, à ces débats, et qui viennent chercher de l'information ?
Pas tellement. Moi, j'ai l'impression que ça reste vraiment... en tout cas, à Saint-Denis, moi, ce qui me frappe, c'est que y a beaucoup de jeunes alternatifs qui sont là pendant le Forum social européen. Mais par contre, les jeunes dionysiens, hein, les jeunes qu'on appelle vulgairement, enfin, les jeunes des cités, eh ben, ils restent aux portes des débats. Je pense que c'est vraiment deux mondes qui se croisent et qui se rencontrent pas forcément. Et je pense que là-dessus, on a vraiment un gros travail à faire. Et que c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui connaissent pas le FSE, qui savent même pas ce que c'est, parce que même nous, on a du mal à savoir ce que c'est et à expliquer ce que c'est. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas encore cette information et pour qui ça n'a aucune utilité. Enfin, ils ne voient vraiment pas ce que ça va apporter, ce que ça peut apporter, etc. Et donc il y a vraiment... Et je pense que les FSE, alors ça, c'est une vitrine à un moment donné. Le fait que ça se passe à Saint-Denis, pour nous, c'est important parce qu'effectivement, bah, les gens se croisent dans la rue, donc forcément, ça interpelle. Et puis peut-être que justement, nous, c'est à nous, après, au niveau collectif, local, de travailler là-dessus et justement d'ouvrir justement cet espace-là à des gens qui viennent pas habituellement. Histoire d'onde.
Je suis Nausicaa, j'arrive de l'Italie, de Bergamo, et je suis avec mes amis de Cagliari, Napoli, Sorrento. Et bon, nous sommes ici pour exprimer notre amitié vers les différentes problématiques qui sont en train de... de discuter dans cette forum social. Et nous pensons qu'il faut participer beaucoup pour changer le monde. Et ça, c'est possible. Et nous sommes ici pour participer et pour dire qu'aussi de l'Italie, nous arrivons ici pour rester ensemble avec les autres et pour créer des liens avec les autres pour combattre.
Vendredi 14 novembre 03, atelier des associations, Saint-Denis, 17h.
Je m'appelle Gino, je viens de Belgique, région de Charleroi. Je suis délégué syndical dans une entreprise chimique, pharmaceutique pour préciser. Et donc voilà, ici c'est le combat de tous, à tous les niveaux. Il faut réveiller les gens parce que nous allons vers une Europe fascisante par rapport à tout ce qui est social, etc. Donc voilà, il faut se mobiliser, il faut être là, il faut gueuler, il faut mettre les politiques devant leur entre guillemets caca, parce qu'ils nous font une Europe merdique. Ça devient, parce que c'est vrai que et partout où on passe, dans tous les séminaires, tous les ateliers de travail, etc., ben on se rend compte que ce soit pour les jeunes, pour les vieux, pour ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, ben c'est pas normal.
Et vous venez ici pour justement pour discuter, pour pouvoir après en rediscuter dans votre syndicat, ou qu'est-ce que vous venez chercher ici ?
Personnellement, c'est la première fois que je viens à un forum de telle ampleur au niveau mondial, mais je viens chercher pour pouvoir... Ça me donne raison dans les idées que j'ai, donc c'est pour mieux pouvoir les développer en entreprise, etc., pour faire comprendre aux travailleurs que nous reculons à grands pas dans tout ce qui est social. On nous prépare une Europe vers le bas, pas vers le haut, au niveau qualité de vie. Donc, voilà.
Et justement, enfin, on ne se rend pas forcément compte, mais est-ce que... moi, je peux en parler parce que je suis français, mais on assiste à une espèce de dégringolade de toutes les conditions de travail, de licenciement. Et est-ce que, justement, en Belgique, c'est exactement pareil ?
C'est exactement pareil. À part les contrats précaires, les jeunes n'ont plus que pendant au moins 10 ans, ils ne trouvent pas de travail normalement rétribué et avoir des contrats valables. C'est tous des contrats précaires, intérim, jeune emploi, tout ce qu'on veut, lié à des formations. Et les patrons vont chercher des subsides et que c'est pas normal. Alors que le patronat n'a jamais fait autant de bénéfices qu'à l'heure actuelle. Quoi. Donc, plus on avance... On ne sait pas. Et les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite, rentrent dans le jeu du patronat. Et c'est pas normal. Va falloir se réveiller à un certain moment. Quoi.
Et justement, ce réveil, vous avez envie de le faire comment ? Comment vous comptez agir pour
Ben, au sein de notre organisation, on aimerait, nous, à la base, on aimerait bien que ça bouge un peu plus au niveau de la tête, qu'il y ait des mouvements au niveau européen qui se créent, parce que si on ne fait pas une Europe sociale, on n'aura jamais une Europe valable. Et les délocalisations vont continuer, que ce soit vers les pays de l'Est, vers l'Asiatique, ou tout ce qu'on veut. Et si on n'est pas une Europe forte socialement, on dégringole, on va dégringoler.
Bah ici, on est à Saint-Denis. Je crois que c'est l'atelier, c'est sur les ateliers des associations. Et donc, je m'appelle Laurent, je suis étudiant donc à Rennes et je viens pour le compte du mouvement des jeunes socialistes. Et si je viens au FSE, c'est d'abord pour partager avec les Européens leur vision de leur monde et dans quelle Europe ils veulent vivre. Et je m'aperçois au fur et à mesure qu'on a des séminaires ou des discussions avec les autres Européens que l'Europe des citoyens et l'Europe plus générale de la gauche sera difficile à construire parce qu'on peut avoir des divergences. Mais en même temps, c'est très enrichissant parce qu'en même temps, elle nous permet de ne pas avoir un discours franco-français sur la question européenne et réellement de participer collectivement avec eux en intégrant les problèmes qui peuvent exister dans leur pays et en intégrant aussi nos contradictions et notre volonté de construire donc cette Europe.
Tu fais la 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 la.
Et bah là ici on est à Saint-Denis, on est dans un des quatre endroits où le Forum social européen tient et moi je m'appelle Olivier Besancenot, voilà. Je suis à la fois porte-parole d'une organisation politique qui s'appelle la LCR, qui est présente dans le mouvement anti-mondialisation depuis le début. Et puis je suis là aussi comme salarié et comme beaucoup ici pour essayer de voir quel type de message peut sortir du forum, parce que le forum c'est qu'un moment, c'est qu'une photo, c'est qu'un instantané. Mais ce qui est aussi très important, c'est de comprendre ce qui se passe avant et ce qui se passe après. C'est-à-dire ce qui se passe au quotidien et ici de toutes sensibilités différentes, politiques, d'obédience associative différentes. Tu as un travail de fourmi qui est fait sur le terrain au jour le jour pour résister à tous les méfaits du capitalisme actuel et malheureusement ça manque pas, que ce soit au niveau écologique, au niveau démocratique, au niveau social.
Et justement, quand on présente ce mouvement et ce forum social, on parle d'altermondialisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce terme? Est-ce qu'il vous convient? Est-ce qu'il y a un autre vocable que vous utilisez? Comment vous voyez justement cette mouvance altermondialisme? Et est-ce que ce terme vous convient?
Oui, ce terme me convient. Nous, une fois de plus, on fait partie du mouvement depuis le début. Le mouvement altermondialiste, c'est vrai qu'on l'utilise rarement au boulot parce que c'est un mot qui est difficile à faire rentrer dans le langage quotidien, mais qui a un mérite, c'est d'expliquer qu'on n'est pas contre la mondialisation en soi, qu'on est contre la mondialisation actuelle, qui est une mondialisation libérale. Et quand tu prends le thème de l'Europe, c'est quelque chose de très concret. Je pense que demain, on ne sera pas 36 000 à pouvoir encore parler d'un projet européen, dans les couches populaires notamment, parce que je pense que c'est un projet qui sera complètement discrédité si on continue à construire l'Europe qu'on fait, c'est-à-dire une Europe qui est particulièrement injuste, qui est inégalitaire, qui provoque de la pauvreté, du chômage, de la misère, comme on la connaît actuellement, y compris en France. Donc ce terme-là, évidemment, que je le revendique comme beaucoup d'autres. La force du mouvement anti-mondialisation libérale, c'est de regrouper sans sectarisme différents réseaux syndicaux, politiques, associatifs, qui sont mis d'accord pour résister aux effets et qui sont mis d'accord aussi pour débattre petit à petit de quel type d'autre monde est possible avec les points qu'il y a communs entre nous, puis aussi des points de discorde qui existent évidemment à partir du moment où on cherche des solutions alternatives.
Et justement, il y a un des points de discorde qu'on peut avoir dans les débats et dans les discussions qu'on peut avoir ici, qui sort, c'est est-ce qu'il y a des gens qui se posent la question de savoir si les partis politiques, en tant qu'entité politique, ont leur place justement dans ce mouvement et comment ils peuvent faire évoluer les choses, faire cette prise de conscience dont vous parliez au début, d'avoir quelque chose de pérenne.
Bah, c'est un des débats qui aura lieu tout à l'heure au forum auquel je vais participer, mais ça fait partie d'une discussion régulière, mais rien que le fait qu'il y ait cette discussion-là, ça prouve qu'en partie le problème est réglé. Le problème, c'est que je pense que c'est aux mouvements sociaux de rester la colonne vertébrale du mouvement altermondialiste, parce que c'est à eux concrètement, aux associations, aux collectifs, aux syndicats, de continuer à gérer
je dirais, les grandes décisions. Maintenant, il y a des débats politiques et ce mouvement, il est politique à proprement parler, au bon sens du terme. Alors après, qu'il y ait de la défiance par rapport aux partis, y compris de gauche, moi, je le comprends complètement. On a une alternance gauche-droite qui, pendant plus de 20 ans, n'a rien changé à la vie quotidienne de millions de personnes. Et la politique, au bon sens du terme, qui a été réhabilitée, elle a été réhabilitée par les mouvements sociaux, précisément, mieux que les partis politiques. Mais les uns et les autres ont des responsabilités à avoir, parce que si on ne se pose pas le problème du débouché politique à un moment ou à un autre, on pense qu'on n'est qu'un contre-pouvoir, qu'on est là pour aiguillonner, pour interpeller, pour donner des bonnes idées, et puis on laisse la gauche à Schröder, à Blair, à Strauss-Kahn et à Fabius. Ben, moi, ce n'est pas mon cas.
Et par rapport justement au fait qu'il y ait même des prises à partie, enfin ça a été le cas pendant le contre-semé des viands cet été, et puis ça a été le cas encore là au Larzac et à la Villette, que par exemple le parti socialiste soit vilipendé et traité de tous les noms. Quel est votre regard là-dessus? Parce qu'ils sont aussi un parti politique comme la LCR.
Ben moi, pour parler crûment, je suis pas pour démonter les stands du Parti socialiste, mais je suis pas non plus pour leur dresser un grand tapis rouge et leur donner des chocolats et des fleurs, parce qu'ils ont aussi une lourde responsabilité dans la politique libérale qui a été menée, y compris ces 5 dernières années. Donc il faut comprendre que des chômeurs ou des sans-logis soient très énervés en voyant d'anciens ministres qui ont refusé de réquisitionner les logements vides sur Paris, par exemple, débarquer la gueule enfarinée. Alors maintenant, tout le monde a le droit d'évoluer, c'est pour ça que je suis pour regrouper sans sectarisme tous ceux qui participeront à construire ce mouvement-là. Maintenant, il y a des limites. Que Chirac explique qu'il est un grand altermondialiste, c'est un peu se foutre de la gueule du monde quand même. Voilà. Lui, c'est un flic gentil, le flic méchant, c'était Berlusconi, mais ça reste quand même des flics et ça reste la méthode de la droite.
Je suis le docteur Ouédraogo Sambologo du Burkina et je suis membre de Médecins d'Afrique internationale et la prétention c'est d'en faire une panafricaine pour la santé. Et dans Médecins d'Afrique internationale, toutes les bonnes volontés sont la bienvenue et il n'y a pas que les Africains. La section d'Europe qui est basée à Paris regroupe tant des Africains que des amis français.
Et donc, qu'est-ce que vous essayez de promouvoir dans votre activité?
Ce qu'on essaie de promouvoir essentiellement, c'est les moyens qu'il faut mettre en marche pour prévenir la maladie. Parce que comme on aime à dire, il vaut mieux prévenir que de guérir. Du coup, on essaie de faire un travail de sensibilisation pour éviter que les gens ne tombent malades. Et si par malchance ils sont malades, on essaie à partir de la section d'Europe qui est basée à Paris de recueillir les médicaments qu'il faut pour faire parvenir à nos sections nationales, parce que nous travaillons à ce que dans chaque pays africain, il y ait une section de notre panafricaine pour la santé.
D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous avez décidé de venir au Forum social européen ?
Nous avons décidé d'être au Forum social européen parce qu'il faut que nous puissions faire savoir ce que nous poursuivons comme objectif. Dans la mesure où la situation sanitaire en Afrique est dramatique et il se trouve que les dirigeants malheureusement ne font pas grand-chose. Enfin, ils font ce qu'ils peuvent. Donc il revient à la société civile aussi de prendre sa part de responsabilité.
Et justement, vous essayez de militer pour ça. Et concrètement, comment ça se caractérise ?
Concrètement, nous travaillons à ça parce que sur le terrain en Afrique, nous appelons nos frères de toutes les bonnes volontés à s'organiser en sections dans chaque pays et que chaque section dégage un programme d'activité pour la promotion de la santé. Et à partir de leurs efforts, nous, à partir de l'Europe, on essaie de leur apporter un soutien parce que nous sommes contre l'assistanat. Il faut que chacun prenne sa destinée en main et que dans l'esprit de solidarité humaine, on se soutienne. Mais attendre qu'on apporte, non. Donc sur le terrain, nous les incitons à s'organiser. Et nous, à partir d'ici, vu qu'il y a un peu plus de moyens, on les soutient matériellement en récoltant les médicaments, en récoltant du matériel médical et en y organisant des séminaires de formation.
Voilà. Donc en gros, c'est de la participation plutôt que de faire tout vous-même.
C'est effectivement le terme le plus approprié. Nous les appelons à participer à la promotion de leur meilleure santé possible.